Et tout de suite, le journal de la nuit avec Marguerite Lefèvre. Bonsoir Marguerite.
Bonsoir Karima, bonsoir à tous. Vérité, dignité et espoir. Trois vœux adressés tout à l'heure par Emmanuel Macron à la nation. Le président de la République s'est exprimé depuis l'Élysée. « Je suis au travail », a-t-il déclaré, prêt à mener tous les combats. Une allocution déjà commentée par la classe politique et par les gilets jaunes. Vous entendrez leur réaction dans ce journal. Cette prise de parole intervient alors que la polémique Benalla reprend de plus belle. L'ancien conseiller d'Emmanuel Macron affirme que le président continuait à lui demander conseil depuis cet été. Faux, dément en bloc l'exécutif. L'actualité ce soir, c'est aussi évidemment ce réveillon de la Saint-Sylvestre déjà bien entamé, H-2 avant le passage en 2019. Une bascule que nous allons vivre ensemble sur Europe 1. Nous irons rejoindre Pierre Herbulot qui se trouve sur les Champs-Élysées à Paris au milieu des fêtards et des quelques gilets jaunes qui ont décidé de se rassembler sur les Champs-Élysées. Florence Parly, elle, a décidé de réveillonner en Jordanie auprès des soldats engagés dans la lutte contre le djihadisme. La ministre des Armées rappelle que la lutte contre Daesh n'est pas encore terminée. Également dans ce journal, un réveillon derrière les barreaux pour Carlos Ghosn. La garde à vue du patron de Renault a été prolongée de 10 jours ce matin. À Bobigny, les habitants craignent pour leur sécurité après l'incendie d'un immeuble qui a fait 4 morts jeudi dernier. Les riverains sont venus crier leur colère face à leur bailleur. La météo, pas géniale pour le passage en 2019, nous dira Valérie Darmon. La bourse, ce sera avec Didier Hamot de boursier.com. Et puis la France bouge, retour ce soir sur la saga Deltador, spécialiste de la maison connectée depuis près de 50 ans. Pascal Portelli, le président du directoire, était l'invité de Raphaël Duchemin à l'automne dernier.
Europe 1.
Il a parlé pendant 16 minutes précisément depuis son bureau de l'Élysée. Emmanuel Macron a adressé ses traditionnels vœux aux Français tout à l'heure, c'était à 20h. Une allocution dans un contexte très tendu. Le président de la République a adressé trois vœux pour 2019. Un vœu de vérité, un vœu de dignité et un vœu d'espoir. Emmanuel Macron qui a par ailleurs réaffirmé sa fermeté vis-à-vis de la colère qui s'exprime en ce moment dans le pays. Aurélie Herbemont.
C'est un président debout qui apparaît à 20h, debout comme pour signifier qu'il fait face à l'adversité. Emmanuel Macron ne prononce pas l'expression « gilet jaune », mais il leur adresse plusieurs messages. D'abord pour voir du positif dans la colère, une incitation à faire mieux.
Cette colère a dit une chose à mes yeux, quels que soient ses excès et ses débordements. Nous ne sommes pas résignés.
Des excès qu'il condamne avec force quelques minutes plus tard.
Que certains prennent pour prétexte de parler au nom du peuple. Mais lequel, d'où, comment, et n'étant en fait que les porte-voix d'une foule haineuse, s'en prennent aux élus, aux forces de l'ordre, aux journalistes, aux juifs, aux étrangers, aux homosexuels. C'est tout simplement la négation de la France.
Le chef de l'État l'assure, il n'y aura aucune complaisance. Emmanuel Macron qui va écrire aux Français dans quelques jours à propos du grand débat national censé apaiser la colère. Il n'exclut d'ailleurs pas une évolution des institutions à l'issue. Mais Emmanuel Macron cherche aussi à rassurer ses électeurs en confirmant les réformes prévues cette année. Assurance chômage, secteur public, retraite. Histoire de montrer que malgré la colère, il ne change pas de cap.
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Une allocution suivie de près par la classe politique. Emmanuel Macron n'a ni solution ni tempérament pour sortir de la crise. Réaction de Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération, candidat aux européennes. Même son de cloche chez Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui juge la prestation du président décevante.
Décevante, très décevante. Nous venons de vivre une crise incroyable avec 80% des Français qui se sont reconnus dans le mouvement des Gilets jaunes et il n'en a retenu que les excès. Voilà un président qui nous dit qu'il entend la colère, mais surtout il nous dit qu'il ne change pas de cap. Toutes les réformes qu'il avait souhaité engager, il veut les prolonger. Il nous dit qu'il veut plus de justice, mais en même temps, il nous explique que rien ne va changer dans sa conception même de la solidarité. Je ne vois pas ce que Emmanuel Macron a pu entendre les dernières semaines qui se sont écoulées dans notre pays. Voilà un président qui nous parle de vérité et qui est enfermé dans un scandale sur l'affaire Benalla et qui n'en dit rien. Il n'a pas entendu le fait que cette colère était celle des Français dans leur immense majorité qui ne comprennent pas la politique injuste qui est conduite et sur laquelle il n'a visiblement aucune intention de revenir.
Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, il répondait à Virginie Riva, à une heure de Paris et du Palais de l'Élysée. Eux aussi ont scruté cette allocution sur leur écran de télé. Des gilets jaunes mobilisés depuis début novembre à Château-Thierry. Ils ont décidé d'écouter ensemble le président de la République. Écoutez la réaction de Bénédicte qui passe son réveillon sur un rond-point.
J'en attendais rien de particulier, mais je me suis dit je vais quand même regarder parce que bon, c'est le président, on ne sait jamais. des fois qu'il annonce quelque chose de concret, de réalisable, de positif pour le pays. Et en fait, c'est juste de la comédie. J'ai remarqué qu'il était comédien. Il a menti X fois devant les caméras depuis le 17 novembre et il continue. Donc tant que les mensonges seront là, tant que le peuple ne se sent pas mieux, tant que nos personnes âgées ne récupèrent pas leur retraite de façon décente, les salaires décents, les étudiants qui puissent faire leurs études de façon décente, nos enfants qui puissent grandir dans une situation décente aussi, eh bien on va rester là. Et il faut que M. Macron comprenne que là, ce n'est pas seulement les gilets jaunes, c'est le peuple. Donc maintenant, nous aussi, on dit « ça suffit ».
Bénédicte Gilet jaune de Château-Thierry au micro de Jihan Bergaoui. Cette séquence des vœux présidentiels intervient alors que la polémique Benalla reprend de plus belle. Après le scandale qui a éclaté cet été, après les révélations de la semaine dernière, Alexandre Benalla utilisait encore 2 passeports diplomatiques malgré son éviction de l'Élysée. Eh bien, c'est une nouvelle passe d'armes qui s'est ouverte aujourd'hui. En cause, une déclaration de l'ancien conseiller auprès de Mediapart. Alexandre Benalla affirme que ses contacts n'ont pas cessé avec le président de la République. L'exécutif a démenti sur le champ les précisions d'Adrien Beck.
Un communiqué de 2 pages du Quai d'Orsay, des messages exaspérés de l'Élysée. À chaque déclaration d'Alexandre Benalla, l'exécutif se montre un peu plus agacé. Oui, le Quai d'Orsay a bien demandé à l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron de rendre ses passeports par lettre recommandée fin juillet. Le ministère précise aussi avoir engagé une procédure pour faire annuler les documents. Procédure freinée pour des raisons techniques. Alexandre Benalla affirmait, lui, que rien n'avait été fait, tout comme il affirmait avoir échangé jusqu'à la semaine dernière avec Emmanuel Macron sur les gilets jaunes, sur des questions de sécurité. L'Élysée, un peu embarrassée, dénonce une somme de mensonges, assure que le président n'a jamais sollicité l'avis de son ancien conseiller, mais reconnaît qu'ils ont pu avoir des échanges. Un bras de fer qui feuilletonne et qui commence à agacer jusque dans la majorité, où certains élus se demandent quel sera le prochain épisode.
Les explications d'Adrien Beck. Il est 22h07 sur Europe 1. Dans un peu moins de 2 heures, les bouchons de champagne vont se mettre à voler. Les cotillons risquent de pleuvoir un peu partout. La France s'apprête à basculer en 2019. Alors vous êtes peut-être chez vous, chez des amis, au restaurant, ou peut-être êtes-vous sur les Champs-Élysées à Paris. Si c'est le cas, alors vous n'êtes pas loin de Pierre Herbulot, notre reporter. Pierre, vous nous le confirmez, il y a déjà pas mal de monde sur les champs autour de vous.
Oui, et je me trouve tout en bas des Champs-Élysées, entre la place de la Concorde et l'Arc de Triomphe. Et justement, quand on regarde le monument, c'est assez impressionnant, cette masse qui est en train de se former sur l'avenue. Il y a déjà des dizaines de milliers de personnes ici, et ça continue de se remplir, puisque sans arrêt, depuis que je suis arrivé, des gens patientent aux 30 barrages filtrants qui donnent sur les Champs-Élysées. Sécurité oblige, impossible de passer sans ouvrir sa veste ou son sac devant un policier ou un agent de sécurité privé. L'alcool ou encore les pétards sont interdits, mais tout le monde se prête au jeu dans la bonne humeur. Le public pour l'instant est très familial, des Parisiens, mais aussi des gens qui viennent de régions et même de partout dans le monde pour assister au spectacle de son et lumière qui aura lieu tout à l'heure sur l'Arc de Triomphe, pour assister au passage à la nouvelle année sur la plus belle avenue du monde. Un mot aussi sur le mouvement des Gilets jaunes, puisqu'il y a un appel à manifester qui circule depuis une semaine sur les réseaux sociaux. Et bien pour l'instant, j'en ai vu qu'une poignée sur les Champs-Élysées. Non, vraiment, tout est calme pour le moment, presque un peu trop, comme s'il y avait une forme d'impatience. Il faudra que le temps passe plus vite, qu'on arrive enfin au décompte, aux 12 coups de minuit et à la nouvelle année pour faire la fête.
Pierre Herbulot en direct des Champs-Élysées à Paris. Pierre, on vous retrouvera évidemment tout à l'heure à minuit, à 4000 km de là. Eh bien, c'est en Jordanie que la ministre des Armées a décidé de passer son réveillon. Elle est auprès des soldats qui luttent contre le djihadisme. Un choix qui n'est pas anodin après l'annonce du retrait américain de Syrie. Pour Florence Parly, la lutte contre Daesh est encore loin d'être terminée.
Cette coalition anti-Daesh, elle n'a pas tout à fait fini son travail. C'est aussi ce message que je vais porter à nos aviateurs pour les encourager à le poursuivre et le mener à son terme. Alors bien sûr, nous avons pris acte de la décision américaine de se retirer de Syrie, mais la France considère qu'il reste encore un peu de travail et donc il faut pouvoir le mener à terme. Pourquoi ? Parce que, in fine, c'est la sécurité des Français qui est en jeu. Nous savons que c'est de cette zone qu'ont été organisés un certain nombre d'attentats qui ont touché notre pays, en particulier ceux du 13 novembre 2015. Et nous ne voulons pas que le terrorisme puisse à nouveau toucher nos concitoyens.
Florence Parly, la ministre des Armées, au micro de Didier François. Sur les réseaux sociaux, les vœux pour cette nouvelle année se multiplient à 2 heures du passage en 2019. François Hollande y est allé de son petit message, souhaitant que 2019 soit l'année de l'apaisement pour la France et celle d'un nouvel élan pour l'Europe. Pour l'ancien président, l'unité ne pourra se trouver que dans le dialogue et la recherche de l'égalité. Le passage à la nouvelle année qui sera marqué comme tous les ans par une série de changements. Le plus important, c'est bien sûr la mise en place du prélèvement à la source. À partir de demain, l'impôt sur le revenu sera directement prélevé sur la fiche de paye du contribuable. Et les premiers à inaugurer cette mesure, ce seront les retraités dont les pensions seront versées dès mercredi. Demain, la taxe sur les carburants sera également gelée, de même que les tarifs de l'électricité et du gaz. À 22h10, le monde bascule donc progressivement en 2019. Au Japon, les habitants ont déjà fêté le passage à la nouvelle année. Mais cette bascule, Carlos Ghosn, lui, l'a vécu depuis sa cellule. Le patron de Renault est toujours détenu dans une prison au nord de Tokyo. Sa garde à vue a été prolongée de 10 jours, décision du tribunal ce matin. Carlos Ghosn, soupçonné d'abus de confiance, ne pourra pas sortir avant le 11 janvier prochain. Il est soupçonné d'avoir dissimulé des revenus entre 2010 et 2015. Mais c'est une autre histoire assez compliquée qu'il maintient en garde à vue aujourd'hui. Emmanuel Dutheil, Carlos Ghosn est soupçonné d'avoir fait couvrir par Nissan des pertes sur des investissements personnels au moment de la crise de 2008.
Carlos Ghosn dément les faits qui lui sont reprochés, c'est en tout cas ce que laisse filtrer la presse japonaise, mais c'est très compliqué d'avoir des informations sur la réalité de ce qui est en train de se passer dans cette prison du nord de Tokyo. On en sait quand même malgré tout un tout petit peu plus grâce à des propos rapportés par le New York Times ce week-end des enfants de Carlos Ghosn. L'une de ses filles dit savoir que son père a perdu près de 10 kilos, qu'il est entendu tous les jours par les enquêteurs, qu'il n'a pas eu le droit à un matelas, mais une sorte de légère couverture et à des pilules de vitamine C. Elle valide le fait aussi que son père ne se doutait pas de ce qui allait lui arriver en arrivant au Japon, puisque, outre les réunions prévues à Tokyo, il devait justement retrouver sa fille sur place, sa fille qui devait lui présenter son nouveau compagnon. Juste avant de décoller du Liban, il a mis un message sur le groupe familial, sur son téléphone portable. On pouvait lire sur ce message « On my way to Tokyo, love you guys ». Autrement dit, en route pour Tokyo, je vous aime. Elle raconte que des enquêteurs ont déboulé dans l'appartement de Tokyo dès son arrestation. Ils ont tout regardé, comme par exemple les photos de famille. Le début en tout cas d'un enchaînement totalement imprévu pour Carlos Ghosn, dont on est loin de connaître la fin.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1, toujours à l'étranger, au Brésil. Le pays se prépare à basculer en 2019, une bascule qui signifie également l'avènement d'un nouveau président. Jair Bolsonaro, élu en octobre dernier, sera investi demain à Brasilia. Dispositif de sécurité impressionnant pour l'arrivée du nouveau président d'extrême droite. L'ancien militaire devrait enclencher dans les semaines qui viennent un virage radical dans le pays. Et puis en Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé tout à l'heure qu'il ne démissionnerait pas, même s'il était inculpé. Benjamin Netanyahou est toujours visé par une enquête pour corruption. En Gironde, un député La République En Marche a porté plainte aujourd'hui pour dégradation d'un bien d'utilité publique. La permanence parlementaire de Florent Boudier a été taguée à Libourne la nuit dernière. Sur la façade, on pouvait lire ce matin « Bonne année, islamo-collabo ». Ce député fait partie d'un groupe de travail à l'Assemblée sur la laïcité et plus particulièrement sur une nouvelle organisation de l'islam en France. À Bobigny, une cinquantaine de riverains se sont rassemblés ce matin au pied de l'immeuble qui a pris feu jeudi dernier. Un incendie a priori accidentel qui a provoqué la mort de 4 personnes, dont 2 petites filles. Ce sont aujourd'hui des habitants inquiets qui ont voulu se recueillir et qui se sont retrouvés face à leur bailleur. Ils ont ainsi laissé éclater leur colère. Yasmina Katou était présente à leur côté.
Est-ce qu'on peut améliorer la qualité de service dans l'immeuble ? Nous sommes prêts à en discuter. Si je suis là, c'est pour cela.
On a trop parlé, on a trop discuté, il n'y a rien du tout qui a été fait. Maintenant, nous, aujourd'hui, là, tout de suite, on veut des actes et des vrais actes, pas des paroles en l'air. Vous avez entendu aujourd'hui, vous avez entendu qu'il y a des morts pour bouger, pour venir nous parler. Or que vous avez eu le temps, hein. Ah, du temps vous en avez eu pour venir nous parler. C'est seulement aujourd'hui, une fois qu'il y a les médias et une fois qu'il y a des morts, que vous venez nous parler.
Alors. Je ne suis pas là pour faire de la langue de bois, je discuterai avec chaque personne s'il le faut. Nous avons fait 5 millions d'euros de travaux, voilà. L'habitat, il n'est pas insalubre et nous allons continuer à faire des travaux.
Vous en avez rien à cirer des petits moutons qui habitent ici. Voilà ce que je peux vous dire. Et je contredis chaque personne qui dit que le logement n'est pas insalubre.
Échange recueilli tout à l'heure par Yasmina Katou à Bobigny. Un chiffre à présent, 11 millions de passagers cap franchi par l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry qui n'en finit pas de grandir. Le trafic augmente de 25% chaque année depuis 2015. Des bons chiffres également pour le cinéma français. Nous sommes le 31 décembre et l'heure des bilans a sonné. Alors oui, les entrées sont en baisse dans les salles, mais certains films français ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Qui sont les grands gagnants de 2018? Réponse avec Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français.
Le cinéma français est en pleine forme. Il va très bien et dans tous les domaines. Nous avons 4 films français dans les 10 premiers et même 3 films français dans les 5 premiers avec L'Étuche, La Ch'ti Famille, Le Grand Bain. Et ce ne sont pas uniquement des comédies. L'animation française va très très bien aussi, hein, avec Astérix ou Dilili qui ont fait de très très bons résultats. Voilà, je pourrais vous parler des Frères Sister de Audiard. Donc tout ça réuni dans sa grande diversité, le cinéma français fait effectivement une excellente année.
Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français, au micro de Diane Chénoudin. Un mot de sport et cette annonce qui est tombée dans la matinée. Dijon a décidé de se séparer de son coach, Olivier Dalloglio. Il entraînait le club depuis plus de 6 ans, mais vient d'être remercié après une série de défaites. Un limogeage qui intervient donc en pleine trêve. C'est désormais David Linares, l'entraîneur adjoint du club, qui va prendre les commandes pendant l'intérim. On passe à la météo. Valérie Darmon, le ciel n'a pas l'intention de bouger pour la nouvelle année.
Et oui Marguerite, pour ce jour de l'an, eh bien nous retrouvons exactement le même temps que la semaine dernière avec cette bonne chape de nuages sur une grande moitié nord de la France, doublée de petites pluies éparses ou de bancs de brouillard parfois dense à partir de maintenant jusqu'à demain matin. Donc prudence à cause du brouillard généralisé, notamment sur l'est ou encore dans le sud-ouest, avec une dissipation d'ailleurs très difficile dans l'après-midi. Pas de verglas en revanche. Partout ailleurs sur la moitié sud, le soleil résiste, il brille et le vent faiblit. Peu d'évolution aussi du côté des températures. Les minimales les plus froides sont observées dans le sud-ouest. Elles avoisinent les moins 1, moins 2 degrés. Les maximales sont stationnaires, 6 à 12, un petit peu moins dans le sud-ouest sous les nuages persistants et 13 à 16 dans le sud-est.
Merci, c'était la météo de Valérie Darmon.
Europe 1.
Restez avec nous, dans un instant, on fera un point complet sur la bourse.
Europe 1. Europe 1, Sabrina Philippe.
La libre antenne d'Europe 1 est à votre écoute dans quelques instants. La Libre Antenne, c'est votre moment d'écoute, de partage et de confidence. Pour me joindre, j'attends dès maintenant vos appels au 3921.
3921, 50 centimes la minute.
Alors à tout de suite.
Europe 1, le journal de la nuit.
Marguerite Lefèvre.
Il est 22h17, vous êtes bien sur Europe 1. Tout de suite, on fait un point sur l'actu de la bourse avec Didier Hameau de boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Marguerite.
Wall Street termine l'année en hausse.
Oui, ça se termine dans le calme, en hausse, avec une progression de 1,15% sur le Dow Jones, 23 327 points, un marché très très calme. Le Nasdaq s'adjuge quand même 0,85%, 6 635 points, mais le marché américain perd malgré tout depuis le 1er janvier 6% en raison de la correction de ces dernières semaines, en particulier sur les valeurs de technologie. Ce lundi, la tendance a été soutenue par les dernières déclarations entre Américains et Chinois sur les chances de trouver un accord commercial entre les deux pays. Ça a aidé le marché, ça aide un petit peu le pétrole aussi, qui remonte légèrement. Il n'y a rien de spectaculaire, $45 le baril. Exxon est stable ce soir, $68, de même que Chevron qui ne bouge pas. Il y a quand même quelques sursauts sur les valeurs de technologie, comme Apple, plus 1%. Amazon plus 1,6% ou Microsoft plus 1,2%. Quelques gros dossiers, en revanche, ne suivent pas le mouvement de hausse. Par exemple, Tesla qui perd 0,3% ou Google qui recule de 0,2%. Sur les devises, ça ne bronche pas. On a toujours un euro assez ferme. L'euro est au-dessus des 1,14. 1,1450 face au dollar.
Didier, la bourse de Paris, quant à elle, termine pour le coup dans le calme.
Oui, très calme, avec une hausse quand même, hein, un petit peu plus de 1%, 1,11% des achats, on va dire techniques, 4730 points sur le CAC 40 à l'issue de la dernière séance de l'année. En fait, c'était une demi-séance et ça explique le grand calme des échanges. Un rebond qui permet quand même de limiter un petit peu la casse annuelle, puisque le marché a quand même perdu 11% depuis le 1er janvier. Quelques valeurs parmi les plus malmenées cette année ont repris de la hauteur, comme CGG, c'est une valeur
Parapétrolière, plus 8%. Valeo, plus 4%. L'équipementier automobile qui a quand même chuté de 60% cette année. ST Micro, plus 2%, mais qui recule quand même de 30% depuis le 1er janvier. Le luxe est un petit peu remonté aussi. LVMH, plus 2%. Kering, plus 3,5%. Rien de vraiment spectaculaire. Sur les autres places financières, on était déjà fermé à Francfort, pas de cotation. Madrid aussi était fermé. Vienne, même chose. Bruxelles a quand même pris 1%. Madrid, plus 0,5%. En revanche, Londres est resté juste stable. On rappelle le CAC 40 en hausse. Plus 1,11% à la clôture, 4730 points.
Merci, c'était Didier Hamot de Boursier.com. Il est 22h20 très précisément et comme la semaine dernière, vous pouvez retrouver à cette heure-ci tous les soirs un extrait de La France bouge, l'émission de Raphaël Duchemin, tous les jours entre 12h30 et 14h. Une émission qui donne la parole aux entreprises, aux citoyens qui s'engagent et qui inventent le monde de demain. Ce soir, il est question d'énergie et de maisons connectées. Pascal Portelli, le président du directoire de Delta d'Or, est passé par les studios d'Europe 1, c'était à l'automne dernier. Il était invité de Raphaël Duchemin pour parler de son entreprise fondée il y a près de 50 ans.
Bonjour Pascal Portelli.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le président du directoire de Delta d'Or. Delta d'Or, au départ, quand tout commence, dans les années 70, à Bonnemain, en Ille-et-Vilaine, c'est une entreprise qui fait de la sous-traitance électronique. Et puis, très vite, les Renault, parce que c'est eux qui démarrent cette entreprise, se tournent vers le pilotage du chauffage. Ils ont été précurseurs.
Absolument, ils ont été précurseurs.
Alors, visionnaires même.
C'est pas un hasard si ça s'est passé en Bretagne, parce que la Bretagne, c'est une péninsule et en fait, on a très peu de production électrique en Bretagne, donc il y a un ratio production-consommation qui est très défavorable. Et donc économiser de l'énergie, ben, c'est important. C'est un problème local, c'est un problème mondial, mais on l'a vu en Bretagne très tôt. Alors, un des premiers produits qu'a fait Delta d'Or, ça s'appelle un délesteur. C'est un petit appareil que vous mettez qui coupe le courant, qui coupe certains appareils pour tenir votre budget. Voilà, vous dites, je veux pas dépenser plus de tant de kilowatts. Ben, on va couper un radiateur, puis un autre, de façon intelligente pour pas que vous ayez froid. Mais vous allez tenir vos dépenses de chauffage.
C'est d'autant plus d'actualité qu'aujourd'hui, le médiateur de l'énergie vient de dire qu'il y avait 30% des Français qui baissent leur consommation parce qu'ils trouvent que c'est trop cher. Donc, c'est vrai qu'il y avait un véritable marché.
Il y avait un véritable marché. Alors, on est passé de couper des radiateurs toutes les 30 minutes. Maintenant, il y a des choses plus intelligentes. On s'adapte à vos besoins. Donc, on peut couper des pièces. On sait si vous êtes dans une certaine pièce ou pas. Ou vous dites, je ne veux pas couper tel appareil. Et puis, on prend ça en compte. On apprend vos préférences au mode de vie, on fait ça de façon de plus en plus intelligente.
Oui, ça fait 40 ans que vous faites des thermostats, hein, puisque c'est comme ça qu'on appelle ça au départ. Aujourd'hui, ils sont connectés, vous avez développé votre activité, mais avec toujours l'emprise territoriale, toujours la Bretagne en toile de fond, si
j'ose dire. Absolument. Bah, écoutez, petit clin d'œil à la Bretagne, nos produits, ils ont tendance à s'appeler avec un TY, un TI, ce qui veut dire maison en breton.
Donc vous allez avoir,
par exemple, la box s'appelle Tidom, comme la maison et le domicile. Et puis tous les autres produits.
Rennes, Bonnemain, ce sont les deux.
C'est entre Rennes et Saint-Malo. Il y a trois centres en Bretagne qui sont pour l'essentiel entre Rennes et Saint-Malo.
Vous êtes aussi à Grenoble, vous êtes aussi en Vendée, à Paris, évidemment.
Tout à fait.
Vous êtes arrivé en 2017.
Tout à fait, je suis tout nouveau.
Oui.
Alors je ne suis pas breton d'origine, mais je suis breton d'adoption et on est vite adopté.
Il suffit de changer, de mettre un ti quelque part dans votre nom. Vous arrivez, c'est un gros changement parce que les Renault passent la main, ça ne reste plus dans la famille. Ils sont toujours là.
Ils sont toujours actionnaires, ils sont toujours présents au conseil de surveillance. Donc c'est effectivement pour eux c'est un acte, c'est pas anodin de passer la main à quelqu'un qui n'est pas de la famille. Donc ils ont beaucoup réfléchi avant de me choisir et puis on a beaucoup parlé et en fait on s'est rendu compte qu'on avait des valeurs vraiment très proches. Moi toutes les valeurs de l'entreprise familiale, je m'y reconnais. On se projette dans le temps, c'est le temps long, on n'est pas une entreprise cotée en bourse.
Vous avez une stratégie à 10 ans.
Absolument.
Alors c'est quoi cette stratégie? Qu'est-ce que vous allez faire dans les 10 ans qui viennent?
Alors on a une mission. Vous savez, on parle dans la loi PAC des entreprises de mission, nous c'est dans l'ADN. On considère qu'on n'est pas là juste pour...
Vous êtes là pour durer.
On est là pour durer et on est là pour supporter la transition énergétique. On pense que c'est important, c'est un enjeu de société. Et on fait des produits, des solutions pour aider la transition énergétique. C'est plus juste économiser de l'énergie, c'est aider à l'utilisation des renouvelables. Bon, les renouvelables, c'est super, c'est décarboné, sauf que c'est intermittent. Voilà, où le soleil brille pas la nuit, le vent souffle pas tout le temps, et donc il faut arriver à utiliser l'énergie quand elle est disponible. On peut la stocker un peu, mais moins on la stocke, moins on a besoin de construire des batteries, d'épuiser le lithium qu'on a pas infiniment sur la Terre. Donc, ça fait partie de notre mission.
Le coach, Nicolas Chaban.
Merci Raphaël, parce que c'est encore une entreprise très intéressante à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est un marché qui est en train d'exploser. J'ai vu des chiffres absolument incroyables. 30% de progression, et j'ai même l'impression que ça sera beaucoup plus. Comment se passer d'une intelligence qui nous permettra d'économiser de l'argent et d'économiser les ressources de la planète? Vous allez doucement, c'est un choix d'entreprise, mais vous pourriez aller bien plus vite finalement, la demande doit être immense.
On va doucement, alors c'est pas parce qu'on se projette à 10 ans qu'on va nécessairement doucement, mais on prend le temps d'investir, voilà, on n'est pas là, au contraire, comme on se projette à 10 ans, ben, s'il faut investir beaucoup l'année prochaine, si ça dégrade un peu les résultats, ben c'est pas grave, on n'est pas coté en bourse, on va pas avoir des actionnaires qui nous mettent la pression. Ben quand je dis à la famille, écoutez, désolé si l'année prochaine il faut investir plus, ils me disent mais il faut pas être désolé, évidemment qu'il faut faire ça, la question se pose même pas.
Voilà. Donc, et on va terminer peut-être par donner quelques chiffres parce que c'est important. Pascal Portelli, vous employez 860 personnes, oui. Un tiers de votre chiffre d'affaires est réalisé aujourd'hui à l'export, et vous avez équipé 3 millions de logements individuels et 10 000 sites industriels, c'est
absolument.
Bien ça?
Et on fait 4,5 millions d'objets connectés par an. Et ils sont non seulement conçus en France, mais ils sont tous fabriqués en France. 100% made in France. On peut faire de l'électronique en France et être performant. Alors ça veut dire beaucoup investir. On a mis beaucoup de robots. Et je voudrais dire une chose, contrairement à ce que certains pensent, les robots, c'est pas l'ennemi de l'emploi. Plus on a mis de robots, plus on a embauché.
Et oui, voilà. Ça peut accompagner le travail, c'est important de le préciser. C'est Deltador, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur
Merci
Europe.
À vous.
La France bouge avec Raphaël Duchemin. C'est tous les jours entre 12h30 et 14h et toute cette semaine, donc rediffusion à 22h20. Demain, il sera question de jouer pour enfants. Restez avec nous. Dans un instant, on épluche les unes de vos quotidiens de demain. A tout de suite.
Europe 1. Toute l'année, Europe 1, c'est mieux que de la radio.
C'est du bonheur, de la joie.
Ça brille, ça bouge. Avec les copains et les copines, se faire du bien.
Du digital, de l'innovation.
De la réflexion.
Se poser les bonnes questions.
Ne pas se raconter d'histoire. Sourire.
Rire.
Aller vers l'autre. Mieux comprendre.
Mieux se comprendre.
Se rapprocher.
De la complicité.
Écouter de la bonne musique.
Rencontrer. Avancer.
Se retrouver.
Europe 1 vous souhaite de magnifiques fêtes.
Il est 22h26, vous écoutez Europe 1. On fait un point sur les unes de vos quotidiens demain à la une. Choix unanime de toutes les rédactions, celle de vous souhaiter une belle et heureuse année 2019. C'est à la une de Nice Matin, par exemple, qui publie un dessin de Richard Orlinski. C'est quatre chiffres, 2, 0, 1, 9, sur fond bleu. Et ces quelques mots, bonheur, amour, paix, bonne année, ensemble. La Provence également vous adresse tous ses vœux. Le quotidien met également à la une les vœux du président de la République, Macron, toujours debout, titre le quotidien, en référence à l'allocution d'Emmanuel Macron, prononcée debout depuis son bureau de l'Élysée. Le président, très offensif selon La Provence, le président qui a rappelé sa foi dans une France efficace et loin d'être résignée. À la une de la Charente Libre, Macron tente de reprendre la main. Après une année chaotique, le président a donné hier soir le cap à suivre pour relancer son quinquennat. Place au grand débat national, nous dit donc la Charente Libre, également à la une du quotidien du Dauphiné Libéré. Débat national, le président l'a annoncé hier, il va écrire aux Français. Les Échos font un bilan de cette année 2018, une année à oublier pour la Bourse de Paris. Après 3 années de progression, le CAC a perdu 10% de sa valeur en 2018. C'est tout simplement la plus mauvaise performance depuis 2011. Cette année, le risque a été essentiellement politique, nous dit le quotidien, avec notamment le Brexit, le budget italien et l'impact de la crise des Gilets jaunes en France. Voilà pour la presse de demain. Il est 22h et presque 29 minutes. Europe Nuit, c'est terminé. Passez une excellente soirée tout de suite. C'est la libre antenne de Sabrina Philippe. Bonsoir Sabrina. Sabrina Philippe, que l'on retrouvera dans quelques instants. Un numéro pour la joindre jusqu'à 1h du matin, ce sera le 39-21 sur Europe 1. Passez donc une excellente soirée. Moi, je vous retrouve à 23h et puis évidemment à minuit tout à l'heure pour un nouveau journal, faire un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.